Thank you. 93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver pour une émission spéciale. Vous savez, d'habitude, on reçoit deux invités. Et en fait, là, on a reçu un album il y a quelque temps et d'un immense pianiste. Et en plus, on a la chance qu'il habite à Paris, donc on a pu l'attraper facilement. Il était là et on s'est dit, non, on va passer une heure avec lui, une heure à parler de cet album qui vient de sortir, dont vous venez d'entendre un premier extrait, et puis une heure surtout à beaucoup écouter de musique. Alors ce pianiste, vous le connaissez tous, il parcourt les scènes de partout dans le monde. Il fait partie, alors je ne veux pas trop dire ça devant lui parce que ça va le mettre mal à l'aise, mais il fait partie des grands pianistes de jazz actuels. Ils ne sont pas nombreux, les grands pianistes de jazz. Il y a beaucoup de pianistes, mais les très grands se comptent sur les doigts d'une main. Notre invité, Yaron Herman, puisque pour ne pas le citer, et qu'on salue. Bonjour Yaron.
Bonjour.
Notre invité en fait partie, mais Yaron Herman, c'est autre chose. C'est-à-dire que Yaron Herman, il fait partie de ces créateurs qui refuse de s'ennuyer, en fait. Et il refuse aussi de nous ennuyer. C'est pour ça que la discographie de Yaron Herman, on pourra y passer plusieurs heures d'émission. Et chaque album, nouvel album de Yaron Herman, c'est toujours une surprise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dans une direction dans laquelle on n'attend absolument pas. C'est peut-être ça, être créateur. C'est peut-être se remettre en cause tout le temps. Prendre des risques.
Oui, je crois que si on ne prend pas de risques, on passe à côté de beaucoup de surprises.
C'est ce qu'on entend, parce que alors en fait il y a beaucoup de gens qui partent un peu feignantise intellectuelle, isolent certains pianistes en disant ce sont des pianistes, ils sont des pianistes de trio piano basse batterie ou de solo, un peu feignantise intellectuelle. On aurait pu vous cataloguer là-dedans, et là en fait moi ce qui m'a beaucoup frappé dans votre album et par rapport à ce que vous faites aussi par ailleurs, quand vous étiez la semaine dernière à la Cité Internationale avec Émile Parisien dans un autre projet où vous n'étiez pas forcément leader ou co-leader. Ce qui m'a frappé dans cet album, c'est votre immense générosité. Je m'explique, c'est un album où vous allez nous parler de l'équipe. Il y a deux saxophonistes qui sont dans cet album. Et en fait, votre générosité, c'est aussi de mettre vos compositions et votre musique et votre... On connaît vos talents de pianiste qu'on entend, qu'on vient d'entendre et qu'on va entendre tout au long de l'après-midi, mais de les mettre au service, de permettre de faire briller d'autres interprètes. C'est une forme de générosité qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. C'est ce que vous vouliez ? C'était offrir quelque chose ?
Je ne considère pas la chose dans ces termes, en fait. Générosité, la seule chose qui compte pour moi, réellement, c'est la musique. Et parfois, la musique a besoin que je joue beaucoup de notes, et parfois, elle a besoin que je ne joue rien.
Mais c'est un écrin aussi que vous donnez à vos saxophonistes. On va parler de l'équipe qui vous accompagne. Et d'ailleurs, on profite pour donner le titre de l'album qui s'appelle Radio Paradise. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on est à la radio et un petit peu au paradis aujourd'hui. Donc Radio Paradise. Vous nous expliquerez d'ailleurs la raison de ce titre, parce que j'ai lu les liners, mais j'ai quand même toujours pas compris pourquoi ça s'appelle Radio Paradise. Mais c'est un écrin que vous offrez quand même au travers de vos compositions qui sont absolument magnifiques, et aussi à travers de votre jeu, parce que vous pourriez être un pianiste qui est très très devant, qui joue beaucoup, beaucoup de notes, et puis d'avoir des saxophonistes qui vous accompagnent et prennent des choruses de temps en temps. C'est pas ça. Là, il y a une vraie dimension orchestrale.
Eh bien, chaque composition de cet album est presque un scénario différent qui nécessite que quelqu'un soit le porteur de lumière ou celui qui prend la parole là-dessus. Et donc, dans l'ensemble, l'architecture globale de l'album, j'essaie de créer justement des reliefs entre des moments où le piano, il est vraiment devant, il est volubile, il a un discours assez présent, et d'autres moments où il est vraiment là pour servir de soutien et pour vraiment fertiliser la créativité de l'ensemble. Et encore une fois, pour moi, je ne distingue pas, même quand je ne fais pas de solo, je fais entre guillemets, Pour moi, je joue toujours un solo. C'est-à-dire que même quand on accompagne, ouais, on est toujours dans la créativité, on est toujours dans l'improvisation. Donc, je ne distingue pas forcément les deux états entre accompagnateur et soliste. Pour moi, c'est un ensemble. Quand j'écoute la musique, j'entends ce que tous les participants, participantes, tous les éléments d'ensemble génère, crée, évoque comme émotion. Ensuite, on peut les disséquer, c'est de les réduire dans ces parties, mais pour moi, le tout est plus important que ces parties.
Alors, ce projet repose sur plusieurs piliers. Donc, on rappelle le titre Radio Paradise, hein, sorti sur le label Naïve. Il est sorti là ces jours-ci. Hein, il est sorti le 4 avril. Oui. Ouais. Il est sorti le 4 avril. Et dans lequel on a une équipe assez inattendue, parce que, je dis inattendue, parce que, à part un des pilier qui est un peu votre frère, votre alter ego, votre bras droit, votre bras gauche, je ne sais pas, c'est Yves Ravitz à la batterie, mais autrement, l'équipe, elle est assez inattendue, puisque ce n'est pas des gens avec qui vous aviez déjà enregistré. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous accompagne ?
Alors, comme vous avez dit, Yves Ravitz à la batterie, à la basse, Ragai Konmilo, qui est un bassiste qui habite à Berlin, qui est... Il a fait pas mal de choses à New York. Il a vécu pendant, je pense, 15 ans à New York. Il a fait plusieurs albums pour le label de John Zorn. Il a joué avec plein de musiciens sur la scène new-yorkaise. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, humainement, musicalement. Et il a un très bon feat avec Ziv aussi. Donc, je pensais que les jumeler ensemble, ça serait une bonne idée. Il a à la fois une aisance rythmique particulière qui est assez flexible tout en étant vraiment très très solide. Et je savais qu'il allait comprendre un peu les idées que j'allais lui exposer, notamment sur la dynamique, sur les silences, sur des parties un peu plus, justement, qui demandent peut-être plus d'engagement rythmique, à être un peu plus rentre-dedans. Donc il est vraiment à l'écoute et ça matche assez bien.
Et puis alors, il y a deux saxophonistes ténors qui alternent ou qui jouent ensemble d'ailleurs, et c'est deux femmes.
Oui, Maria Grand au saxophone ténor et aussi Alexandra Grimal. Alors Maria, elle joue sur, je dirais, 75% de l'album. Et Alexandra qui intervient sur trois titres. Et ça s'est fait un peu au fur et à mesure. J'ai rencontré Maria. Et au départ, je me suis dit, OK, je vais faire un quartet. Mais ensuite, j'ai joué avec Alexandra. Je me suis dit, ah, quand même, Alexandra, c'est super. J'adore ce qu'elle fait. J'adorais l'avoir aussi sur le projet. Et donc, c'était pas facile toujours à organiser et à chanter et à faire le choix de qui joue sur quoi et comment. J'ai quand même réussi à les faire jouer sur deux morceaux, ce qui n'était pas forcément toujours évident. Je suis très très heureux de les avoir toutes les deux parce qu'elles ont des styles assez distinctivement différents, mais complémentaires, selon moi. Après, je ne sais pas, vous allez
pour les auditrices et auditeurs, Maria Grand, qui ont une bonne mémoire, était venue nous voir il y a à peu près un an dans ses studios pour parler de l'album qu'elle avait fait avec Marta Sanchez, avec la pianiste Marta Sanchez. On avait écouté Strive, maintenant je vous propose qu'on écoute un deuxième titre, Trust, puis vous nous direz comment les idées, vous nous direz c'est quoi le déclic créatif pour ces à chaque fois, pour chaque morceau. C'est un petit clin d'œil par rapport au livre dont vous étiez venu nous parler, votre livre de déclic créatif. C'est intéressant de voir comment ça se passe, ça s'agence tout ça. Oui. On écoute Trust. Thank you. êtes bien sur Jazzland à l'YFM 93.1 en compagnie de Yaron Herman, avec qui nous passons cette heure pour parler de la sortie de l'album Radio Paradise sur le label Naïve. Et là, on vient d'écouter Trust. Avant, on avait écouté Strive. Alors, à chaque fois, je disais juste avant qu'on écoute les morceaux, c'est quoi le déclic créatif? Est-ce que vous avez, on se souvient par exemple, quand dans le livre, justement, le déclic créatif, vous expliquez que des fois, vous êtes dans un avion, vous entendez un petit bruit répétitif, puis ça vous fait, puis ça vous trotte dans la tête, puis vous rentrez chez vous, vous dites oui, j'ai entendu ce truc-là, et vous composez là-dessus. C'est comme ça que ça s'est produit
La plupart du temps, c'est des motifs ou des idées qui soit me viennent comme ça quand je suis au piano ou sous la douche, ou je n'en sais rien. Soit d'autres éléments écrits qui se trouvent dans mes nombreux cahiers que j'ai chez moi. J'archive toutes mes idées.
Je crois c'est que pas une histoire idées. Que vous avez en tête et que vous voulez...
Non, pas du tout. Très, très, très rarement. Il y en a peut-être un morceau qui vient d'une histoire hors musicale que j'ai contemplée à la suite. Il y a une idée musicale qui a émergé de ce nuage. C'est rare. Souvent, c'est vraiment, ça vient de vraiment de la matière brute d'une idée musicale et sa résonance vis-à-vis de mon imaginaire de construction, d'émotion, de l'instant en fait.
Et du coup, là, vous avez écrit en pensant au son de saxophone qui allait vous accompagner. Vous avez écrit les parties de saxophone?
J'ai écrit les parties de saxophone, oui. Dans l'album, il y a beaucoup de mélodies qui sont doublées à l'unisson. Mm-hmm. Donc, je cherchais vraiment un son mélangé du piano et du saxophone dans une espèce d'idéal de trouver une troisième voix qui serait le mariage alchimique de ces deux éléments. Et donc, évidemment, c'était très important de trouver les bonnes personnes qui avaient ce son-là, qui était avec beaucoup d'air, beaucoup de souffle, et à la fois très terrien et très habité.
Mais c'est quoi l'idée? Parce que là, vous êtes chez vous, devant votre piano, vous avez votre idée, etc., qui prend forme sur la base d'une mélodie ou d'un riff. Mais quel est le truc qui a fait que, dites, cet album, je veux le faire avec des saxophonistes? Et d'ailleurs, j'ai une question subsidiaire, d'ailleurs, qui n'a peut-être aucune espèce d'intérêt ou d'importance, et je demande aux auditrices, aux auditeurs de m'excuser si la question est stupide. Mais des saxophonistes femmes, est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière ou pas du tout? Ou ça s'est fait comme ça?
Ça s'est fait vraiment comme ça et j'ai choisi les deux saxophonistes qui me semblaient les plus proches de l'idée que j'avais de cette musique. Pour un peu situer mes goûts, en tout cas, ce que je recherchais sur cet album-là, c'était plutôt quelqu'un qui se rapproche d'un Duke Ellington que d'un Chris Potter, par exemple.
Oui, oui.
Donc, il n'y a pas beaucoup de gens, ne serait-ce que hommes-femmes ou toutes catégories confondues, qui aujourd'hui approfondit cette direction-là, parce que c'est quand même assez particulier. Et... des personnes dont l'aspect spirituel de la musique est plus importante que juste jouer rapidement et briller et voilà, avoir l'air très très compétent. Donc Maria et Alexandra font partie de ces personnes-là qui ont quelque chose en plus.
Absolument. Alors, on va tout de suite enchaîner sur un troisième morceau, parce que vous parliez de la dimension spirituelle, de l'adhésion à la spiritualité de ces morceaux. Le morceau qu'on va écouter juste après, c'est exactement la réflexion que je me suis fait en écoutant le jeu de Maria Grand sur G.U. Voilà, je propose qu'on écoute, puis après on va en reparler. Mais après, je voudrais aussi vous reparler de vos relations avec la rythmique. Mais on va écouter Giyu et Giyu, c'est Maria Grande, hein, je me trompe pas. C'est
bien. Absolument.
C'est bon, voilà. Thank you.
FM avec Jean-Marc Gélin.
Et oui, comme elle a dit la dame, Jazzland sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin, mais surtout avec Yaron Herman pour la sortie de l'album Radio Paradise paru sur le label Naïve. Et là, on devait entendre J.U. avec Maria Grand comme saxophoniste. Alors, avant de passer à la suite de l'émission, juste d'abord, premièrement, pour remercier à la technique Armand, parce que je sais que je vais l'oublier à la fin. Donc, merci Armand, on fait un geste de la main. Et puis aussi, pour ne pas oublier, Yaron, vos dates de concert. Donc, ne pas oublier de les citer, puisque les prochains concerts, il y a un concert, si on prend les concerts en France, il y a un concert le 16 mai. Concert de sortie d'album, dans le cadre du festival Jazz à Saint-Germain. Mm-hmm. Ça sera où ? C'est à quelle...
À la maison de l'Océanographie.
La maison des océans, ouais. Très très bel endroit. Et ensuite, vous enchaînerez pour le premier week-end de Coutances, de Jazz sous les pommiers, le 24 mai. Mais je crois que ça doit être sold out, à mon avis.
Ouais, c'est sold out.
Voilà. Mais soyez quand même allés. Ça sera peut-être enregistré par nos amis de France Musique, peut-être. Je ne sais pas. Ils sont peut-être dans les parages. Bon, on va voir. Vous serez, pour ceux qui seront à Londres, le 30 mai au Ronnie Scott. Ensuite, le 1er juin à Bayreuth. Le 3 juin à Munich. Le 4 juin à Berlin. Le 5 juin aussi. Après, pour vous revoir en France, ça sera le 8 juillet dans le cadre du festival de Montpellier. Et vous enchaînerez le 18 juillet avec Mio. Donc, pas mal de dates. Avec l'équipe ?
Avec l'équipe.
Alors, on va parler justement de l'équipe et de votre relation avec l'équipe. Alors, oui, dans les annonces que j'ai à faire, et avant de vous faire... J'ai une surprise, en fait, pour vous, Yaron. Mais avant de parler de ça, je voulais juste annoncer deux choses. La première, et on en profite pour le saluer, notre ami Alex Dutil va faire mardi à Arcuria, donc sur le rond-point des Champs-Élysées, une lecture autour d'un livre d'art, en quelque sorte, sur Keith Jarrett, pianiste qui vous est cher Yaron, et c'est Alex Dutil qui a fait les textes, et il y aura une lecture accompagnée ensuite d'un concert avec R.L. Besson et Jean-Philippe Viré. Il paraît que Alex Dutil, il paraît que Keith Jarrett avait à un moment donné l'idée de faire un disque avec Tom Harrell, ça ne s'est pas fait, donc c'est un peu dans la continuité de ça. Donc c'est assez tôt, c'est 18h ou 18h30 à Arcurial, rond-point des Champs-Élysées, et c'est mardi. Et puis un autre concert pour quelqu'un qui nous tient à cœur, qui nous a quittés il y a pas longtemps. C'est une chanteuse pour qui on avait une immense chanteuse et pour qui on avait une grande amitié, Laura Litardi, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et il y a une soirée spéciale qui lui est réservée au Sunset, demain, donc dimanche, à partir de 19h jusqu'à tard dans la nuit. Il y a pas mal de gens qui sont invités. Et maintenant, une surprise, Yaron. Si je vous parle d'une saxophoniste qui s'appelle Emma Ravitz, ça vous parle ?
Ouais.
Vous la connaissez ?
Mm-hmm.
Il me semble que vous la suivez un petit peu. Alors, pourquoi je passe Emma Ravitz ? C'est parce qu'elle vient de sortir un album avec un pianiste qui... Je n'arrive pas à le prononcer, son nom, Guillem Simcock, que vous connaissez ?
Guillem Simcock.
Guillem Simcock, voilà, vous prononcez mieux que moi. Un album sur le label Act qui s'appelle Big Visit. Et je vous propose qu'on écoute un extrait d'un morceau d'un duo, un pianiste avec une saxophoniste. Oui, c'était à propos. Allez. Thank you. Et oui, toujours sur Jazzland, l'IRFM 93.1, et en compagnie de Yaron Herman. Mais là, ce n'est pas Yaron Herman qu'on vient d'entendre. C'est le duo de la saxophoniste anglaise Emma Ravitz et du pianiste Gwilym Simcock, voilà, sur le label Act. L'album s'appelle Big Visit. Vous disiez hors antenne que Gwilym Simcock, c'était ce qui se produisait de mieux en tant que pianiste en ce moment.
Si je savais que j'allais citer là-dessus, j'aurais rien dit. Mais d'autres amis qui
dans ceux qui se produisent le mieux, mais
c'est un excellent pianiste, j'aime beaucoup.
Ouais. Ça vous touche un duo comme ça ou
Oui.
Ouais.
Oui.
Emma Ravitz aurait pu faire partie de l'équipe.
Non.
Non, d'accord. Ouais. C'est pas la sensibilité que vous recherchez. Voilà. Alors là, on vient d'entendre un duo piano-saxophone. D'ailleurs, on se posait la question, enfin moi je posais la question, ça vous a trotté dans la tête de faire un duo avec Maria ou avec Alexandra ?
Dans l'album, dans la séance d'enregistrement, on a fait quelques duos comme ça, pendant que les autres allaient prendre un peu le soleil en dehors du studio. Et peut-être qu'on va les sortir un moment. Donc ça existe.
Un moment d'impro ou une composition ?
Non, c'est un mélange. On a commencé par une impro qui a abouti à une composition. Voilà, on est arrivé de l'improvisé vers l'écrit. Et aussi de l'écrit vers l'improvisé. Et ouais, ça existe. Et certainement, on le sortira un jour.
Vous avez enregistré où ?
Nous avons enregistré à Besco, Studio Besco, qui est à l'extérieur de Paris, à une heure de Paris.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Et c'est à chaque fois... Alors j'ai cru comprendre que vous aviez pas mal de choses qui ne sont pas dans l'album et que vous avez enregistré, vous sortirez plus tard. C'est quoi ? C'est des... Il y a beaucoup de prises ou c'est...
Je suis arrivé avec beaucoup de matière. J'ai composé 17 ou 18 morceaux. Qu'évidemment je voulais tout enregistrer, mais bon, avec les contraintes du temps, et etc., et en parlant avec Daniel Ivinec aussi, qui était le directeur artistique de la séance, et un précieux conseil, et pendant toute cette phase d'enregistrement, on a décidé quand même de se concentrer sur un certain nombre de morceaux qu'on voulait absolument sécuriser et mener à bout. Cela dit, on a quand même enregistré 5 ou 6 autres morceaux qui ne sont pas sur l'album, qui demeurent pour l'instant en salle d'attente.
On les entendra peut-être en concert. Alors là on vient d'entendre un duo piano-saxophone. Là, vous avez une rythmique. Et moi, je me posais une question sur la rythmique, parce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission que Ziv Ravitz, vous avez une relation presque fraternelle avec Ziv Ravitz. Enfin, c'est totalement télépathique, votre jeu et vos deux jeux ensemble. Bon, on a l'impression que vous n'avez même pas besoin de vous donner d'indications. C'est totalement télépathique. En revanche, et je repensais en fait à ce que disait Bill Evans, pour qui la relation avec le batteur était une relation, c'était pour lui la chose la plus compliquée, jusqu'à Scott Lafaro, etc. Mais ça a été très compliqué, il le disait. Pierre Annuzzi, dans son livre sur Bill Evans, en parle. Vous avez réglé ce problème du batteur. C'est
on règle jamais un problème du batteur. Non, je rigole. Mais c'est pas un problème déjà. Et ça dépend des projets, des infinités. Oui. Les choses sont fluides. Le jazz, c'est pas. Ouais.
Au gré de vos projets. On voit souvent les contrebassistes changer. Est-ce que c'est parce que vous ne trouvez pas celui qui correspond avec votre musique, ou c'est parce que chaque projet demande un contrebassiste différent ? C'est quoi votre relation avec le contrebassiste ?
J'ai une relation, je dirais, peut-être un poil plus compliquée avec la basse qu'avec la batterie. Déjà parce que j'ai une façon d'entendre l'harmonie assez particulière, comme je pense peut-être parce que je j'aime beaucoup le changement. Et donc j'ai une façon de changer les harmonies, même s'ils sont écrites d'une façon très précise sur le papier, il peut m'arriver de faire des superpositions, de faire de choses qui peuvent déstabiliser certains bassistes parce qu'ils croient que je change d'accord. Or, c'est juste une réharmonisation ou une autre façon de pimenter un peu l'accord ou garder sa racine, mais superposer quelque chose qui semble être peut-être pas ça, mais en fait, si. Et donc, déjà, il me faut quelqu'un qui a de grosses oreilles. Mmh. Qui peut vraiment me suivre et ne pas être déphasé par des changements surprenants. Ouais. Donc, comme j'aime pas faire la même chose deux fois d'affilée, quelqu'un qui a cette flexibilité. Et donc, trouver ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, tous les éléments rythmiques. Et j'aime bien aussi que ma main gauche soit libre, c'est-à-dire trouver les tessitures dans lesquelles on ne rentre pas l'un dans les tessitures de l'autre, dans les registres. Donc savoir aménager des plages d'espace, penser au contrepoint, penser comment agencer la densité, et tout ça, quoi. Donc ça demande par projet vraiment une approche chirurgicale.
Mais là, il y a une prise de risque parce que là, en l'occurrence, je ne veux pas écorcher son nom, Arai Cohen Milo, c'est ça, je me suis bien prononcé. Vous n'aviez jamais joué avec lui, donc quand vous dites, je savais qu'il collerait bien avec ce projet.
On a joué ensemble quand on était bien plus jeune. Ah, donc je connais son jeu, je le connais humainement, personnellement. Avant chaque décision de prendre un tel musicien ou un autre, on parle beaucoup de nos références, de ce qu'on aime, de ce que j'aimerais bien obtenir comme résultat, qu'est-ce que tu vois, nos références, est-ce que ça te dirait ça, ça t'évoque quoi. Donc je tâte un peu le terrain pour savoir, ok, est-ce qu'il sera réceptif à aller dans une direction ou une autre. Et donc ça aide quand même pas mal.
Mais c'est vrai, si je peux me permettre, vous êtes déroutant, Yaron, parce que je vous disais tout à l'heure que vous n'êtes jamais là où on vous attend, mais même quand on... Et c'est ça qui est passionnant dans votre jeu, c'est que quand vous jouez, c'est la phrase suivante, la phrase qui précède celle que vous venez de jouer, n'est jamais celle vraiment qu'on attend, c'est jamais dans la facilité. Je veux dire par là, je vous ai entendu la semaine dernière, à la Cité Internationale, avec Émile Parisien, et quand vous interveniez, c'était jamais le truc classique, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est à chaque fois. Et je comprends que ça puisse déstabiliser des contrebassistes. D'ailleurs, vous avez joué avec une superbe contrebassiste. Ça vous a peut-être donné des idées, non, de jouer avec elle, non ? Non, vous dites non de la tête, parce que c'est une superbe contrebassiste avec qui vous jouez, Linda May. Et voilà, contrebassiste de Dave Douglas. Mais je comprends que ça puisse déstabiliser les contrebassistes parce que vous allez vite et vous changez de direction très vite, en fait.
Je ne sais pas si j'ai changé de direction très vite, mais en tout cas, call me old-fashioned. Tu vois, moi, je suis peut-être un peu old-school dans le sens où je crois que le jazz... L'essence du jazz, c'est de ne pas jouer à ce qui est prévisible.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Je suis vieux comme ça. Je suis...
mais vous voyez, avec Ziv Ravitz, j'ai l'impression qu'il vous comprend tout de suite.
Oui, c'est vrai que sur beaucoup d'aspects, même dès la première fois qu'on jouait, on avait une connexion que j'ai du mal à expliquer. Alors, et heureusement, la magie existe parfois dans la vie.
On écoute un autre morceau. Hymn for a good day. Alors là, c'est quel saxophoniste ?
Toujours Maria.
Toujours Maria. Allez. Hymn for a good day. Thank you. En fait, j'hésite vraiment à reprendre la parole après ce morceau, parce qu'on a envie de laisser un peu le silence s'installer, n'est-ce pas ? C'est le silence après un morceau comme ça, c'est encore de la musique. On disait hors antenne que c'était une expression très, très soulful, très, très remplie d'âme de Maria Grand. C'est vraiment c'est un hymne, c'est presque une prière d'ailleurs. Franchement, on n'a pas trop envie de commenter après, on a juste envie de laisser la musique s'installer. Donc c'était In For A Good Day de l'album Radio Paradise de Yaron Herman sur le label Naïve. Alors moi j'avais une question, mais en fait en écoutant ce morceau, je me dis que la question elle tombe vraiment mal, parce que j'allais vous poser la question. Yaron, on vous a jamais entendu jouer du Fender ou de l'électrique. Mais quand on vient d'entendre ça, on se dit bah oui, effectivement on comprend. Mais ceci dit, je vous la pose quand même, parce que je l'avais prévu de la poser.
Je l'ai fait, mais c'est vrai que c'est pas ce qui me fait le plus, comme disent les jeunes, kiffer.
Ouais.
Le piano présente tellement de possibilités, et il y a tellement de nuances et de subtilités que j'ai encore, j'ai l'impression, beaucoup d'années devant moi à explorer, et à creuser, à approfondir, et donc c'est ça qui me passionne plus que tout, et donc je ne vois pas de raison pour l'instant de faire autre chose.
J'ai une petite, puis on va conclure, mais j'ai une petite anecdote à raconter aux auditrices et auditeurs vous concernant. Hein. Il y a quelques années de ça, un petit festival de jazz en province, dans le sud-ouest, et vous étiez programmé en première partie de Kezia Jones. Je raconte souvent cette anecdote parce que y avait beaucoup de jeunes qui étaient là et qui, on va le dire franchement, Yaron Herman, ils n'en avaient rien à faire, quoi. Ils étaient là pour Kezia Jones, et donc on entendait les bruits de verre, etc. Enfin, ou peut-être pas sur scène, mais en tout cas, nous, on entendait les gars qui parlaient, etc. Et vous n'avez pas dévié d'un millimètre de ce que vous vouliez jouer. Vous n'avez fait aucune concession. Et au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure, on entendait les mouches voler. Et vous avez eu une standing ovation. Alors que tous ces jeunes-là étaient là pour Kezia Jones. Voilà, je raconte ça parce que moi, ça m'a beaucoup frappé. Et en tout cas, ça dit aussi beaucoup de votre fidélité à vous-même et de ce que représente la
surtout
musique.
Surtout à la musique, ouais, voilà. J'essaie. Ouais.
Exactement. Donc, écoutez, on encourage les auditrices et auditeurs à venir vous voir. Je ne sais pas s'il y a encore des places pour Saint-Germain le 16 mai, mais courez vite, vous précipitez sur ces dates de concert. Puis de toute façon, il va y en avoir d'autres, j'imagine, parce que le projet va beaucoup tourner. Pour nous, ça a été vraiment le choc du printemps. Voilà, c'était la sortie de cet album. Encore une fois, vous nous avez surpris, parce que c'est ça, les créateurs ne refuse de s'ennuyer, hein, parce que vous pourriez refaire la même chose que vous avez fait.
On essaie de refuser de vous ennuyer aussi.
Exactement. Donc un grand merci Yaron. On va se quitter avec Water Lily. La semaine prochaine, vous retrouvez Lionel Eskenazi. Et nous, on se retrouvera dans 15 jours avec justement une spéciale Jazz sous les pommiers dont vous ferez partie, puisque vous serez dans le premier week-end. Donc on rappelle le titre de l'album, si on ne l'avait pas dit, Radio Paradise. Ça tombe plutôt pas mal, Radio Paradise, sur le label Naïve. Yaron Herman, un grand merci. Je remercie encore Armand. On se quitte avec Water Willy et on se dit à dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.